Comment est-ce que vous vous sentez lorsque, à brûle-pourpoint, on lit le texte suivant, qui se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 12. Il est dit au verset 15, « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » On pourrait lire un texte équivalent dans le Nouveau Testament. Un texte qui dit à peu près la même chose dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, dit à peu près la même chose. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En recevant ces textes comme ça, à brûle-pourpoint, comment est-ce que nous nous sentons? Ce sont des textes qui ont été utilisés, et beaucoup d'autres encore, pour mettre dans le cœur des croyants cette crainte et cette peur du Dieu tout-puissant, du Dieu scrutateur. Et la peur a été augmentée en ajoutant à ces passages une doctrine inventée qui n'est pas biblique, qui est celle de l'enfer, qui fait que si on ne peut pas être sauvé, on va brûler à perpétuité dans l'enfer de Dieu. La Bible n'enseigne pas cela. Et pourtant, des générations ont marché dans une fidélité, entre guillemets, par la peur des jugements de Dieu. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette peur ne faisait pas marcher le monde, et finalement on est passé d'un extrême à l'autre, et l'on entend dans les milieux chrétiens beaucoup de gens qui disent « Ah, mais le Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, il va sauver tout le monde, finalement. Dieu est tellement bon. Le Dieu d'amour, le Dieu de Jésus va sauver tout homme. » Et pourtant, l'enseignement biblique sur le jugement est bel et bien au travers des Écritures du début à la fin. Il nous enseigne à recevoir cette image de Dieu comme l'image d'un Dieu juste, d'un Dieu vrai, d'un Dieu d'amour, sans aucun doute, mais d'un Dieu qui ne considère pas le mal et le péché à la légère. On le comprend au prix qu'il a payé pour sauver l'humanité en Jésus-Christ. Il est intéressant de voir comment, déjà dans l'Ancien Testament, David s'exprime dans cette prière. Psaume 26, dès le premier verset, David s'exprime de cette façon. « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » David demande dans ce psaume que Dieu sonde ses reins, ses sentiments, son cœur, ses pensées. Et il commence en disant « Rends-moi justice, Éternel. » Tournez quelques pages dans le livre des psaumes, le psaume 35, aussi de David, s'exprime de la même manière au verset 24. Psaume 35, verset 24 dit « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. » David appelle le jugement de Dieu. Ce n'est pas un langage que l'on entendrait facilement aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'appelle pas le jugement de Dieu, on fuit le jugement de Dieu. Et puisque Dieu est si bon, dit-on, pourquoi est-ce que Dieu jugerait les hommes? Il va les pardonner, il ne va pas les juger, voyons. C'est le langage que nous entendons. Et pourtant, la Bible résonne de cet appel « Juge-moi, ô Dieu ». Le livre de la Genèse, dans la perspective hébraïque avec laquelle il a été écrit, présente sept jugements de la part de Dieu. Sept épisodes qui sont présentés dans le livre de la Genèse comme des jugements de Dieu. Et ces sept épisodes sont extrêmement instructifs sur l'enseignement biblique concernant le jugement de Dieu et la grâce de Dieu. Et j'aimerais rapidement ce matin avec vous reprendre ces sept événements pour essayer d'en comprendre le sens profond en rapport avec le jugement de Dieu. Je vous propose de prendre le livre de la Genèse et de regarder dès le chapitre 3 où se trouve ce premier épisode de jugement de Dieu. Dans Genèse chapitre 3 se trouve ce texte qui nous parle de la chute de l'homme, du péché. Et dans ce contexte-là, le premier jugement se trouve inscrit. Vous connaissez l'histoire, Adam et Ève ont désobéi, se sont séparés de Dieu. Et l'appel retentit au verset 9. Genèse chapitre 3, verset 9, il dit « Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Dieu appelle l'homme en jugement. Après sa faute, il l'appelle à venir. Et puis l'interrogatoire va venir au verset 11. L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et puis il y a ce dialogue où l'homme va essayer de se défendre. Verset 13, il s'adresse cette fois à la femme. « Pourquoi tu fais cela ?» Et la femme répond. Il y a là l'interrogation. Le jugement est en cours. Et finalement, au verset 14, le verdict arrive. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Et puis le verdict continue. Au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. » Et au verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, « Donnez cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Il y a là le premier récit du jugement de Dieu. Le péché est intervenu et Dieu va appeler l'homme en jugement. L'homme et la femme, pourquoi tu fais cela? Et il va prononcer son verdict. Et remarquez qu'au milieu même de ce jugement, Dieu va placer là la première grande promesse du salut par Jésus-Christ. C'est le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » C'est là cette première prophétie qui annonce le salut en Jésus-Christ, celui qui va écraser le mal. Au milieu de ce premier jugement, la grâce retentit déjà. Le deuxième jugement se trouve au chapitre 4. On apprend au chapitre 4 que Caïn va tuer son frère Abel et Dieu va l'appeler en jugement. C'est au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il dit au verset 10, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et vous entendez là le jugement qui commence. Dieu appelle Caïn et procède à l'interrogatoire. Et puis maintenant, au verset 11, tombe le verdict. « Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Curieusement, il y a dans cette histoire un plaidoyer qui arrive. Un petit peu plus loin, au verset 13, « Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Et là même, dans ce jugement, va apparaître encore la grâce de Dieu. Elle est au verset 15. « L'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. » Au milieu même de ce deuxième jugement du livre de la Genèse, Dieu apporte sa grâce et met un signe sur le meurtrier. Caïn ne saura pas bénéficier de la protection de Dieu. Il va continuer à s'en éloigner. Le troisième jugement se trouve au chapitre 6, où nous avons le récit du déluge. Et là encore, ce récit du déluge prend l'allure d'un jugement. Genèse, chapitre 6, verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel regarde et que voit-il? Le verdict vient au verset 7. L'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Là encore, le verdict arrive. Et dans ce jugement, la grâce de Dieu apparaît de nouveau. Le verset 8 dit ceci. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » C'est ici le premier endroit où dans les Écritures, ce mot « grâce » apparaît. Chapitre 8, deux chapitres plus loin, une autre phrase qui indique cette grâce de Dieu apparaît dès le verset 1er. Il est dit, Genèse chapitre 8, verset 1er, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui avait été avec lui dans l'arche. Dieu se souvint de Noé. Dans ce jugement encore, devant la situation irrémédiable sur la terre, Dieu présente son jugement et présente aussi sa grâce. Le quatrième jugement se trouve au chapitre 11 du livre de la Genèse, où se trouve rapporté le récit de la tour de Babel. Là encore, l'histoire nous est présentée comme un jugement. Genèse chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel descend pour voir, pour investiguer. Et puis il va prononcer aussi son verdict au verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et ainsi Dieu va disperser. Mais là encore, devant la méchanceté immense qui monte jusqu'aux oreilles de Dieu, Dieu avait suffisamment pour reproduire encore une destruction du monde. Il va simplement les disperser, confondre leur langue. Ces gens qui ne reçoivent pas la parole de Dieu ne sont plus capables de s'entendre entre eux. Et ils vont être dispersés sur la surface de la terre. Le jugement suivant, dans le livre de la Genèse, se trouve au chapitre 16, où nous est rapporté le récit de la fuite d'Agar, la servante de Sarah. Il y a là aussi un appel au jugement. Agar s'est enfuie, et au verset 7, il est dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. » Et il dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Et le dialogue s'engage. Il y a là un interrogatoire qui est fait. Et puis le verdict vient au verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. » Mais là encore, dans ce jugement, la grâce de Dieu va apparaître d'une façon extraordinaire. Elle vient immédiatement après au verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Au milieu encore du jugement de Dieu, sa grâce apparaît. Le sixième jugement se trouve au chapitre 18 de la Genèse, dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Et là encore, ce récit apparaît comme un jugement de la part de Dieu. Genèse chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Là encore, il y a investigation. Dieu veut voir, Dieu veut regarder, Dieu veut savoir, Dieu veut interroger. Il est en procès avec le monde. Une défense va intervenir. On la trouve au verset 23. Elle vient de la part d'Abraham, qui se présente comme un avocat dans cette situation. Et il va dire, « Feras-tu ainsi périr le juste avec le méchant ?» Et vous vous souvenez comment Abraham va négocier le salut de Sodome et Gomorre, pensant qu'il y avait 50 justes, et puis 40, et puis 30, et puis en fait, non, il n'y a pas tant de justes que tu penses. Finalement, Abraham va dire « Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Abraham plaide. Il plaide pour sauver Sodome et Gomorre. Mais le jugement arrive. Et vous savez comment Dieu va faire tomber sur Sodome et Gomorre le feu du ciel. Curieusement, sa grâce se manifeste d'une façon extraordinaire. Au chapitre 19 et au verset 15, il nous est rapporté comment deux anges viennent pour libérer Lot de Sodome et Gomorre. Au verset 15, il est dit « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Au milieu de ce jugement et de cette condamnation forte de la part de Dieu, la grâce de Dieu vient les anges vont prendre Lot par la main, sa famille, pour les sortir, j'allais presque dire, malgré eux, de la ruine qui va tomber sur cette ville. Le dernier jugement dans le livre de la Genèse apparaît au chapitre 22, dans le récit que vous connaissez bien, qui est le récit du sacrifice d'Isaac. Ce récit n'apparaît pas à première vue comme un jugement de la part de Dieu, et pourtant, il y a là un appel. Au verset 1, il est dit, Genèse chapitre 22, verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est un peu comme si Dieu venait voir Abraham et lui disait, Abraham, tu es un pécheur, va offrir un sacrifice pour ton péché, prends ton fils. Et on peut imaginer ensuite tout ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham. C'est comme si le verdict tombait tout de suite. Tu es pécheur, va sacrifier ton fils. C'est le sacrifice nécessaire pour couvrir ton péché. Il n'y a pas de défense. Abraham lutte en lui-même, mais ne donne pas sa défense. Mais vous savez comment dans cette histoire, Dieu va intervenir d'une façon plus que extraordinaire. Un peu plus loin dans le même récit, au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et vous savez comment Dieu va pourvoir par un bélier. Le texte nous dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Là va apparaître la formule de la grâce. Au verset 14, il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Yiré, l'Éternel pourvoira. Au milieu de ce jugement, au milieu de ce verdict prononcé directement, montrant que le péché demande le sacrifice. Dieu lui-même va pourvoir. Et Dieu dit à Abraham, le sacrifice de ton fils ne va rien résoudre au problème de ton péché. La seule solution au problème de ton péché, c'est la solution que Dieu lui-même va pourvoir. C'est la seule. C'est la solution de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la solution que Dieu donne car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dire à quel point, dès le premier livre de la Bible, le jugement est présenté comme une confrontation avec Dieu, c'est clair, mais comme une confrontation avec un Dieu qui apporte en même temps que le jugement la grâce dont nous avons besoin pour nous délivrer des conséquences du péché. C'est-à-dire de la mort. Dans l'Ancien Testament, plusieurs passages nous montrent à quel point ceux qui connaissaient Dieu avaient hâte de le voir exécuter son jugement à leur égard. Regardez de nouveau avec moi dans le livre des Psaumes, dans le psaume 98, il est un passage qui montre clairement à quel point le psalmiste comprenait le sens profond du jugement de Dieu. Il est dit dès le verset 5, chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec la trompette et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. C'est la fête, mes amis, c'est la grande fête dans le monde entier. Pourquoi? Verset 9, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. C'est la fête dans le monde parce que Dieu vient juger le monde. Et ce langage est difficile à comprendre pour quelqu'un qui vit dans notre siècle parce qu'on fait tout pour éviter le jugement de Dieu. Et pourtant, du début à la fin, dans les Écritures, le jugement de Dieu, c'est ce que le croyant réclame. Parce que le croyant ne voit pas la justice de Dieu s'abattre sur lui comme une punition épouvantable de la part d'un Dieu furieux qui veut absolument faire payer à l'homme toutes ses fautes. Dieu a un autre plan. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, où dans ce texte imagé et symbolique, le Christ montre à Jean, dans cette vision, les martyrs qui sont morts pour leur foi. Et au verset 10, il est dit ceci. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a cet appel de ceux qui ont souffert pour leur foi et qui disent « Qu'est-ce que tu attends pour venger notre sang ? Qu'est-ce que tu attends pour nous juger ?» Et Dieu répond, pendant qu'ils sont morts, pendant qu'ils sont dans le sommeil de la mort, Dieu répond et leur donne une robe blanche, leur demandant d'attendre que le plan de Dieu s'accomplisse en son temps. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le jugement de Dieu nous est présenté comme d'une grande importance. Parce que Dieu est un Dieu juste, mais ce Dieu juste a pourvu. C'est le Dieu qui pourvoit et qui donne sa grâce. Dans le livre de Daniel, cette définition encore du jugement est apportée d'une façon claire. Regardez avec moi dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Un chapitre où le jugement de Dieu est présenté d'une façon très claire. Daniel, chapitre 7, il est dit au verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit. » Et un petit peu plus loin, au verset 10, « Les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. » Nous sommes en plein jugement. Comment ce jugement est-il défini un petit peu plus loin dans le même chapitre? C'est au verset 21. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Le livre de Daniel, qui présente d'une manière très claire et indiscutable la présence du jugement de Dieu dans l'histoire et dans le plan du salut, nous montre en même temps ce que le jugement de Dieu signifie pour Dieu. C'est le moment où il vient donner droit aux enfants du Très-Haut. C'est le moment où il leur prépare le royaume qui doit leur appartenir. C'est la raison pour laquelle, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, le monde entier se réjouit du jugement de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans le texte des psaumes que nous avons lu, David demande à Dieu, « Juge-moi, Seigneur, qu'attends-tu pour me juger ?» Parce que lui, qui est aussi un enfant de Dieu, ne conçoit pas le jugement de Dieu comme l'exercice d'une justice implacable et d'une sentence sans merci. Le croyant reçoit le jugement de Dieu comme la réhabilitation de cet enfant de Dieu dans ses droits perdus par le péché. Le jugement, c'est la réhabilitation du croyant. Et dans ce sens, je peux dire aussi, « Seigneur, juge-moi. » Car j'attends avec impatience que le problème du mal et du péché, de la mort et de la souffrance soit résolu. J'attends avec impatience de pouvoir recevoir le royaume que je ne mérite pas, mais que dans sa grâce, Dieu a pourvu et qu'il m'a donné grâce à Jésus-Christ. J'attends aussi le jugement avec impatience. Le livre de l'Apocalypse nous en parle encore au chapitre 21. Nous montrant que ce jugement est véritablement une bonne nouvelle pour un certain nombre de gens. Certes, pas tous. Ceux pour qui Jésus n'est rien, ceux pour qui le plan de Dieu n'a aucun sens, ne voient pas dans le jugement une bonne nouvelle. Mais il est dit dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, au chapitre 21 et au verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous avons la possibilité de nous présenter au jugement ayant avec nous un avocat. L'apôtre Jean, dans la première épître qu'il écrit, nous rappelle que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, nous rappelle que nous sommes cachés par Jésus-Christ en Dieu. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile, le jugement va permettre à Dieu de remettre en ordre tout ce que le diable avait jeté dans le désordre. Le jugement va permettre à Dieu d'éliminer une fois pour toutes et définitivement le mal et toutes ses conséquences. C'est le seul moyen d'offrir la vie éternelle à ceux qui ont accepté Jésus. Dans le livre Vers Jésus, à la page 67, je trouve ce paragraphe. Si vous vous donnez à lui, et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère, et vous avez accès auprès de Dieu tout comme si vous n'aviez jamais péché. Voilà la grâce de ce Dieu qui pourvoit à notre salut, qui nous amène en jugement, mais qui pourvoit lui-même à l'avocat et au sacrifice. De cette manière, je peux me tourner vers Dieu et lui dire « Seigneur, juge-moi maintenant ». Dans ce sens, on comprend que le dernier message qui sera proclamé au monde contienne ce jugement. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, où se trouve la dernière proclamation de l'Évangile éternel au monde. Dans cette dernière proclamation, avant que ne vienne le retour de Jésus, qui est présenté symboliquement à partir du verset 14 de ce chapitre 14, dans cette dernière proclamation, la vérité sur le jugement retentit très fort. Regardez ce qui est dit dès le verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous sommes invités à craindre Dieu et lui rendre gloire parce que son jugement arrive. Et en effet, le jugement est bonne nouvelle pour ceux qui ont Jésus comme avocat. C'est le moment en réalité où dans son jugement, Dieu va réhabiliter chacun de ses enfants dans son statut de fils et de fille de Dieu pour l'éternité. Je n'ai pas peur de ce jugement de Dieu. C'est ce que j'attends depuis longtemps. C'est le moment où la grâce va être déversée dans toute son immense abondance sur ceux qui l'auront accepté, qui auront reconnu en Jésus leur sauveur personnel. Le jugement, nous dit la prophétie, a lieu maintenant même dans le ciel. C'est dans le ciel que se déroule le jugement final. Le jugement dans lequel Dieu va ouvrir les livres et le livre de vie pour voir qui peut être sauvé et qui ne veut pas l'être. Devons-nous craindre ce jugement? Pas du tout. C'est le moment où Dieu veut réhabiliter chacun de nous dans son statut d'enfant de Dieu. C'est dire à quel point il est important pour nous aujourd'hui, non pas de craindre le jugement de Dieu, mais de craindre de ne pas lui appartenir, de craindre de ne pas avoir avec nous le Christ comme notre sauveur personnel. Et dans le temps de grâce que nous avons justement la possibilité de nous assurer que le Christ est avec nous chaque jour et que chaque jour nous pouvons le recevoir à nouveau comme notre Maître, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel. Pour qu'au jour où le jugement se termine, ce soit pour nous bonne nouvelle et que nous ne soyons pas parmi ceux qui, voyant Jésus revenir, se lamenteront et crieront au rocher « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui vient. » Amen.